Je vous propose de faire deux lectures faites par le même homme, un des compagnons de Jésus, à deux endroits différents. C'est l'évangile de Jean, l'apôtre Jean, qui a écrit une parole, il fait une forte déclaration dans son évangile, et une autre déclaration très forte aussi dans ses épîtres, dans la première épître. Donc nous allons lire d'abord la première déclaration dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 16 à 17. C'est un verset souvent bien connu des chrétiens, et à juste titre. Voici la première déclaration donc que l'un des compagnons de Jésus fait dans son évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La deuxième déclaration, toujours du même Jean, se trouve dans six épîtres, la première épître, et c'est au chapitre 2, à partir de verset 15, les versets 15 à 17. Et voici ce qu'il écrit pour les chrétiens. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. » Dans le premier texte, Jean nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour le monde. Et dans le deuxième texte, il nous dit « N'aimez pas le monde ». Comment se fait-il que Jean demande aux chrétiens de ne pas aimer le monde, alors que préalablement il dit que Dieu a tant aimé le monde au point de donner son Fils unique pour le sauver? Comment comprendre ce commandement de ne pas aimer le monde que Jean nous laisse ici? Comment recevoir autant chrétien cet impératif? Jean est-il en train de nous demander de rejeter notre monde, de nous couper complètement de notre monde? Est-il en train de nous inciter à vivre simplement entre chrétiens, entre nous, et de ne rien recevoir, de ne pas être réceptif à tout ce que le monde peut nous offrir, toutes les bonnes choses que le monde peut nous apporter? Quel est l'enseignement que Jean veut nous laisser ici, dans ces deux textes? Quelles recommandations pouvons-nous tirer aussi pour nos sœurs qui viennent de se faire baptiser, et plus largement pour vous, les amis qui nous visitez, les membres de la famille, et qui ne connaissez pas peut-être encore Jésus d'une manière plus personnelle? Le monde que Jean nous demande de rejeter, de ne pas aimer, est décrit grâce à trois expressions dans le deuxième texte que nous avons lu. Il est caractérisé par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux et par l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair. La Bible, en effet, appelle la chair dans la Bible peut avoir plusieurs sens. Bien sûr, le premier sens qui vient, c'est celui de notre corps, de notre corps, le corps d'ailleurs aussi bien humain que le corps animal. Mais le corps, la chair, peut aussi renvoyer au mode de vie terrestre, physique, un mode temporaire et éphémère. Mais la Bible utilise aussi, dans un sens bien spécifique, le mot « chair » pour désigner l'être humain dans sa rébellion contre Dieu. L'être humain rebelle à Dieu, c'est-à-dire l'être humain qui décide de vivre sa vie comme bon lui semble, indépendamment de ce que Dieu veut pour lui, indépendamment de ce que Dieu lui a dit. Cette attitude que tous les hommes ont hérité des premiers représentants de l'humanité devant Dieu, à savoir Adam et Ève. En effet, lorsque Adam et Ève ont décidé de tourner le dos à Dieu et ont déclaré fait cette déclaration d'une certaine manière, une déclaration d'indépendance à Dieu. Ils ne veulent plus dépendre de Dieu. Ils s'estiment assez intelligents, assez capables de mener leur vie comme bon leur semble. À partir de ce moment-là, l'être humain, en effet, a tendance à chercher à vivre toujours, jusqu'à maintenant, indépendamment de Dieu. Et c'est ce mode de vie que la Bible appelle le mode vivre selon la chair, les convoitises de la chair. L'apôtre Paul dit d'ailleurs que nous étions, avant d'être chrétiens, nous étions tous, nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair, nous faisions les volontés de notre chair, de nos pensées, et nous étions par nature voués à la colère comme les autres. Et ce mode de vie selon la chair, sans Dieu, c'est-à-dire, peut conduire parfois à des pratiques vraiment très très mauvaises, voire même très dégradantes. Et certaines d'entre elles sont mentionnées dans la Bible, par exemple l'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, la division, la dissension, dispute, les passions jalouses, envie, buverie, orgie, etc. Donc il y a certaines pratiques qui peuvent découler de ce mode de vie loin de Dieu. Et lorsque nous devenons chrétiens, nous ne devons plus en effet vivre selon ce mode de vie sans Dieu, dans la mesure où nous sommes avec Dieu en Jésus-Christ. Ou désormais, en devenant chrétien, comme nos sœurs baptisées l'ont exprimé tout à l'heure, on vit avec Dieu et Dieu est toujours présent avec nous. Et par conséquent, nous ne pouvons plus nous livrer à ce mode de vie sans Dieu. C'est la première chose donc qu'il nous faut fuir dans ce monde que le chrétien est appelé à fuir, voire même à détester. La deuxième chose qui caractérise ce monde que les chrétiens sont invités à rejeter, c'est la convoitise des yeux. Si les convoitises de la chair sont liées à notre propre nature, les convoitises des yeux, par contre, elles ne viennent de l'extérieur. Elles utilisent la porte de nos yeux pour nous induire à la tentation. Elles se servent de nos yeux pour nous conduire à faire des choses parfois aux conséquences vraiment mauvaises, aussi bien pour nous, mais aussi pour les autres, et surtout aussi vis-à-vis de Dieu. La convoitise des yeux, c'est l'attirance de l'aspect extérieur d'une chose, c'est cette attirance qui est exercée sur nous, au point de nous conduire, de nous amener à courir derrière elle, toujours, quitte pour pouvoir la posséder, quitte parfois à utiliser des moyens illégitimes et parfois des méthodes vraiment très très douteuses. C'est donc la force de cette attirance visuelle qui fait tomber, c'est cette force de l'attirance visuelle qui a fait tomber Ève par exemple lorsqu'il y a eu cette première tentation, lorsqu'elle a cédé à cette désobéissance à Dieu. Et la Bible, cette histoire nous est rapportée juste au troisième chapitre de la Bible, lorsqu'on commence à lire la Bible au troisième chapitre, elle nous est dit que Ève vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à regarder. Et donc il y a l'aspect là de séduction qui est mentionné, qui est souligné dans ce texte de la Genèse. La séduction, garde toujours sa force. Cette séduction, certains ont tellement compris la force de la séduction qu'ils ont été jusqu'à créer toute une industrie de la séduction des yeux. Vous comprendrez que je parle ici de la publicité. On se sert de la publicité aussi pour attirer notre regard. Une fois que notre regard est bien captivé, nous conduire à consommer de plus en plus, peut-être même à consommer un peu trop. Et c'est l'un des dangers de notre société, c'est la surconsommation. En tout cas, la société occidentale, j'entends. La Bible nous invite en effet à vivre dans le contentement. La Bible nous invite à ne pas passer notre vie à chercher, à courir derrière les choses qu'on convoite, qu'on voit, à courir derrière les choses que nous ne possédons pas. Et en cela, la Bible nous invite à résister, en effet, aux convoitises des yeux qui peuvent nous conduire dans cette recherche, dans cette quête effrénée de posséder ce que nous n'avons pas. Et enfin, la dernière expression qui est utilisée pour décrire ce monde qu'il nous faut laisser de côté, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie consiste à mettre sa confiance dans ses propres richesses, dans ses propres biens. D'ailleurs, ces richesses, qu'elles soient matérielles, mais aussi intellectuelles et autres. Et le terme employé pour parler de la vie ici revient au chapitre 3 dans cette même épître, au verset 17, pour désigner les biens de ce monde. Il s'agit donc bien ici de toutes ces assurances que ces richesses, ces biens de ce monde peuvent donner à celui ou à celle qui les possède. Ces richesses matérielles, et d'autres aussi, peuvent conduire en effet à de vains comportements, comme par exemple à l'autosuffisance, ou encore à l'arrogance, ou encore au mépris de l'autre. Et l'une des difficultés majeures que les biens matériels peuvent créer chez les personnes qui les possèdent, c'est l'illusion d'être en sécurité. Certes, les biens matériels facilitent très bien la vie. Il n'y a aucun problème, la vie matérielle du moins. Mais penser que notre sécurité dépend de ces biens matériels, cela, me semble-t-il, est une grande illusion que nous pouvons avoir dans notre monde. Et encore, dans notre monde occidental, jusqu'à il y a peut-être une dizaine, vingtaine d'années, on pourrait être tenté par ce piège. Mais aujourd'hui, où tout le monde, l'actualité, ne cesse de nous apprendre que des hommes puissants, avec des richesses, avec des biens matériels, passent de jour au lendemain à être complètement dépourvus de leurs biens, voire même parfois privés de leur liberté. Et nous avons énormément d'exemples à cet effet. Pour montrer la fragilité de la confiance fondée ou posée sur les biens matériels, Jésus raconte une histoire, une parabole, à un homme riche qui veut justement amasser et amasser pour mener une vie tranquille, pour mettre sa confiance pour le reste de ses jours. Mais la seule chose que cet homme visiblement a ignoré, en tout cas a oublié, et c'est la même chose que nous oublions souvent aussi, y compris de notre temps, c'est qu'il n'est pas maître de sa vie du jour au lendemain. Il peut perdre sa vie. Et là encore, l'actualité peut être vraiment d'un grand enseignement à cet égard. Voilà pourquoi donc le chrétien est invité à ne pas placer sa confiance dans les biens de ce monde, dans ses ressources, car ces ressources, les biens, peuvent nous induire dans une confiance, dans de fausses assurances. Si le Seigneur nous accorde d'avoir des biens, il y a des chrétiens aussi qui gèrent des biens, des richesses, nous devons nous rappeler que nous ne sommes que des gérants, que des intendants, et par conséquent, notre confiance doit toujours rester en Dieu, toujours en Dieu qui a le pouvoir de nous donner la vie comme de la reprendre. Et Jean nous invite ici à placer notre confiance en Dieu et nous attendre à lui en toutes circonstances. Et cette attitude nous conduira à fuir en effet l'orgueil de la vie et à nous préserver de toute confiance mal placée. C'est donc ce monde caractérisé par la confiance dans ses propres ressources, par la convoitise des yeux et la convoitise de la chair, que nous sommes invités, autant chrétiens, à laisser de côté. En effet, la foi chrétienne implique des engagements, implique des choix, comme cela a été d'ailleurs bien exprimé par nos sœurs qui, dans leur témoignage. Mais il faut noter que ces choix, ces engagements, ne sont pas là pour nous priver de quelque chose que Dieu, de bien, que Dieu veut pour nous. Elles ne sont pas là pour nous priver d'un bonheur. Non, au contraire. Ces engagements sont là pour nous permettre justement d'entrer pleinement dans le bonheur que Dieu veut pour l'être humain, pour entrer pleinement dans les projets de bonheur et non de malheur qu'il a formés sur nous, pour vivre, être en diapason avec cette bonne volonté pour nous que Dieu a pour ses enfants. La convoitise de la chair, les convoitises des yeux, ou encore la confiance dans ses propres ressources ne conduisent pas à ce vrai bonheur. Comme nous l'avons vu, c'est des choses qui peuvent vaciller, qui peuvent partir de jour au lendemain. Mais le vrai bonheur, la vraie paix, la vraie réconciliation, le vrai épanouissement, Dieu qui est notre Créateur, nous l'offre gratuitement en la personne de Jésus-Christ. En effet, lorsque nous venons à Christ, nous recevons non seulement la paix, la réconciliation avec notre Dieu, mais nous entrons pleinement dans son projet pour nous. Nous accomplissons, nous vivons la vocation pour laquelle il nous a lui-même créés, vivre dans une relation avec lui maintenant et pour toujours. Si le Seigneur nous demande de rejeter le monde dominé donc par le mal, il nous demande néanmoins d'aimer le monde qu'il a créé et les êtres qui l'habitent. En effet, notre création, notre monde, n'est autre que l'ouvrage des mains de notre Dieu, de notre Créateur. C'est le fruit de son agir. Et face à la beauté de la création, le croyant est saisi d'admiration. Et dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, on trouve par exemple dans le livre des Psaumes beaucoup de louanges, d'adorations qui sont inspirées juste en regardant la création. David, il dit, « Les cieux proclament la gloire de Dieu, l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Mais cette adoration, cette louange est aussi inspirée pour un auteur du Nouveau Testament, comme l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Il dit, « Les perfections invisibles de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Même si notre monde, il y a du mal, il y a des maux dans notre monde à cause de cette désobéissance humaine, néanmoins, il demeure la création de notre Dieu, une création qui inspire la reconnaissance aux croyants, mais qui fait réfléchir aussi celui qui ne croit pas en Dieu, parce qu'elle permet de voir les perfections invisibles de Dieu. Au-delà de la création, comme je disais tout à l'heure, c'est l'être humain qui est fait le sujet de l'amour de Dieu, l'objet de l'amour de Dieu. Il y a des déclarations très fortes dans la Bible concernant l'amour de Dieu pour l'homme. Et la Bible nous révèle que cet amour-là ne se résume pas, ne reste pas au niveau de discours, mais c'est un amour qui s'est manifesté concrètement, qui s'est manifesté concrètement et de plusieurs manières, et ce, depuis tout au long de l'histoire. Et bien entendu, cette manifestation est devenue visible de l'amour de Dieu, visible, concrète, dans la venue de Jésus-Christ dans notre monde. Dieu a tant aimé le monde, nous avons lu tout au début, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Paul encore dira, voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous sommes le dimanche des Rameaux, nous commençons une semaine, la semaine sainte, une semaine qui nous rappelle, ce dimanche nous rappelle cette semaine où Jésus a pris l'engagement d'aller jusqu'au bout et d'assumer cette semaine sainte jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, jusqu'à la mort sur la croix. En effet, à la croix, Jésus a payé le prix de notre désobéissance, le prix de notre péché, car le salaire de notre désobéissance, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Et c'est à partir de là, nous ne pouvions plus nous approcher de Dieu comme si rien n'était. Non, il fallait payer le prix de cette désobéissance. Et Christ, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes au bénéfice du pardon de Dieu, au bénéfice de cette vie nouvelle que Dieu nous donne, de cette vie éternelle que Dieu nous offre en abondance en Jésus-Christ par son Fils. Nos sœurs qui se sont fait baptiser ce matin, justement, sont au bénéfice de ce pardon de Dieu. Elles sont engagées dans cette nouvelle vie, sur ce nouveau chemin avec le Seigneur, dans cet avenir plein d'espérance et dans ces projets de bonheur que Dieu a en réserve pour chacune d'entre vous. Nos prières vraiment vous accompagnent et nous demandons pour le Seigneur et nous prierons tout à l'heure pour que le Seigneur soit avec vous jour après jour pour découvrir combien il est bon et découvrir le connaître aussi de plus en plus. Car la vie éternelle, la vraie vie, c'est de le connaître, lui, le vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Chers amis, le monde passe, termine Jean dans le deuxième texte que nous avons lu. Le monde passe la convoitise aussi, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Faire la volonté de Dieu, vivre au cœur de projet de Dieu pour nous, pour vous, est une réalité offerte en Jésus-Christ à tous ceux et celles qui se tournent vers toi, qui l'acceptent, qui le reçoivent. Dieu a fait tout le nécessaire pour que son amour parvienne à nous. Il a fait tout le nécessaire pour que nous puissions à nouveau nous retrouver au cœur de sa volonté, au cœur de son projet pour nous. Maintenant, c'est à chacun de le recevoir simplement, humblement. C'est à chacun de recevoir cette vie que Dieu donne, cette vie nouvelle, cette vie en abondance, cette vie éternelle que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Et c'est l'un ou l'autre de nous inviter, des amis, des membres de la famille, nos sœurs qui se sont faites baptiser sont là et aimeraient aller plus loin dans ce cheminement. Nous serions vraiment très heureux de prendre du temps avec vous et de cheminer avec vous et prier aussi pour que vous soyez vous aussi à votre tour au bénéfice de cette vie en abondance que le Seigneur nous offre. L'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille, car tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui acceptent le pardon et l'amour que Dieu nous offre en Jésus-Christ, sont devenus enfants de Dieu. Ils peuvent l'appeler Abba Père, être sûrs de son amour. Et cela a été aussi souligné par les témoignages de nos sœurs. Rien ne pourra nous séparer de son amour et de pouvoir appeler Dieu notre Père, mon Père. Même si nos pères naturels ou peut-être ne sont pas parfaits, et même si nous aussi qui sommes parents, nous savons que nous ne sommes pas parfaits, nous devons faire la différence avec ce Père que Jésus nous a révélé. C'est un Père parfait, bienveillant, qui pourvoit à tous les besoins de ses enfants et qui sait même le nombre de chaque cheveu que nous portons sur nos têtes. Que personne, très chers amis, frères et sœurs, ne se prive de cet amour, du Père, que personne ne se prive de cette relation que Dieu nous offre en Jésus-Christ, que personne ne se prive de cette vie en abondance que Christ offre à chacun. Amen.